RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Il fait un temps splendide. On se croirait un 15 août. Oh, incroyable, incroyable. On est juste en slip de bain dans le studio, vous vous rendez compte? Et alors le technicien, il a mis des lunettes de soleil, parce qu'il y a le soleil qui le pointe sur lui, là, il est obligé de cligner. Alors j'ai dit, mais des lunettes de soleil pour travailler quand même, bon. Par contre, il a gardé son slip, hein. Bon, moi aussi d'ailleurs, hein, parce que bon, faut pas exagérer quand même, hein. C'est pas un bordel ici quand même, hein. Alors, je vais vous parler d'un certain Julos Bocarne. Alors, bon, Julos Bocarne, vous savez ce que c'est. C'est un Belge. Enfin, c'était un Belge parce qu'il est décédé, malheureusement. Il a une belle phrase. Il dit « On attrape les oiseaux avec du silence et les hommes avec du bruit. » C'est un peu vrai, ça. Hein, parce que si vous faites du bruit, les oiseaux, ils ne viennent pas. Par contre, si vous faites du silence, les hommes non plus ne viennent pas. Ils viennent que s'il y a du bruit. Regardez à la Chambre des députés ou au Sénat. Au final, ils sont tous présents parce qu'il y a du bruit. Hein. Et quand il n'y a pas de bruit, ils sont tous, il n'y a personne. Il n'y en a qu'un, des fois, et encore. C'est le balayeur, parce qu'il faut bien qu'il balaye quand les sénateurs ou les députés ne sont pas là, hein, c'est sûr. Hein. Bon. En plus, c'est même pas un balayeur, c'est les femmes de ménage. Alors, par contre, je vais essayer de vous trouver un beau texte. Hein. Voilà. On nous l'avait toujours promis. Un pays grand ouvert. On nous l'avait toujours promis. Un pays grand couvert, bien grand ouvert sur l'univers, avec des habitants heureux de vivre sur cette terre, avec des habitants heureux de vivre sur cette terre, des yeux grands ouverts. Ce petit bout de terre qui bout, c'est la Wallonie, c'est à nous de lui donner vie. Vous voyez, hein, je vous avais dit que c'était un Wallon. Alors les Wallons, c'est ceux qui parlent beaucoup de français, et les autres ont tendance à parler l'allemand ou le hollandais. Hein. Bon, les Flamands. Et je tiens à vous signaler que la légende est fausse, ils ne sont pas tous roses. Non, ce n'est pas tous des Flamands roses. Hein. Non, non. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont bleus. Bon. Je vais m'arrêter parce qu'après, il écrivait beaucoup trop. Alors, il faisait des poèmes qui il m'aurait bouffé l'émission en un seul poème, sinon. Hein, donc, on va faire autre chose. Allez. Allez, tiens, Fleur de femme. Mon dernier Fleur de femme, le quatrième tome. Liberté d'écrire. Alors, liberté d'écrire, c'est un cri révolutionnaire. Liberté d'écrire. Vous vous rendez compte? Comme « Abat machin !» Ou « On veut du vin !»« On veut des femmes !» Vous voyez, hein? Liberté d'écrire. Et j'ai eu cette liberté... Le 23 septembre 2012, à 10h05, c'est-à-dire juste au moment où on démarre les manifs, vous voyez ? J'avais avalé un millefeuille vierge, de l'encre bleue et la plume d'un porte-char. J'avais le choix entre la calligraphie libertine ou cette prose tellement libre que parfois elle coulait le long de mes intentions. Et puis je compris qu'il nous fallait aller voir un tatoueur, afin que tu puisses posséder ces deux possibilités. L'homme à l'encre débile te proposa un cheval zélé en plein combat avec lui-même, et à cause de son esprit très terre-à-terre. Du coup, abandonnant le projet de te faire marquer pour la vie, tu préféras un psychologue femme qui te trouva à son goût. Elle me quitta pour vivre avec elle, sans savoir qu'elle aimait les moules frites chères aux paysans de sa région. Mais pendant cette période désertique, j'avais pris l'habitude d'écrire tous les matins, avant le chant du coq, de l'église, des réformés juste à côté. Puis, après avoir épuisé toutes les gâteries inimaginables avec ta spie, tu as compris que le loup que j'étais pouvait te mordre sans te manger l'essentiel. Alors, tu me tricotes des cravates en laine vierge, au point de croire que je vais les porter quand nous ferons l'amour. Eh oui, eh ben, je ne les ai jamais portées, ces cravates. Parce qu'elle les faisait tellement longue, ça me gênait. Ça se balançait devant ce que vous pensez. Hein. Et à chaque fois, je disais, allez, tire-toi. Mais je parlais à la cravate, je ne parlais pas à ma femme. C'était à la cravate. Et comme c'est bête, une cravate, elle restait toujours en place. Alors je finis par l'enlever. Hein. Bah oui, c'était mieux, c'était plus pratique quand même. Hein. C'est comme si vous alliez faire l'amour avec un slip. Hein. C'est pareil. Bon, bah, c'est complètement con. Hein. Bon, alors. Alors, on a fait un petit. On va faire un petit festival, Bobby Lapointe. Alors là, c'est. Ça va, ça vient. Mais ne vous détrompez pas, hein, ça va, ça vient. Vous allez savoir que ce n'est pas du tout ce que vous pouvez penser. Hein. Bon.
T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Toutes ses bontés passées, ses exploits, il compte comme un huissier qu'on lui doit. Ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais, t'es plus jolie que jamais. Sauf le cœur, la nuit que je t'ai connu, t'étais nu, tu jouais les affranchis, sans chichi, mais t'avais quand tu guettais le pauvre con qui te quittait, le regard noyé d'un chien. Ça va, ça vient, j'ai dit pour te consoler, des conneries, t'as frotté ton petit nez, et t'as ri, tu jouais les affranchis, sans chichi, la nuit que je t'ai connu. T'étais nu, t'aimais pas un sou vaillant, sauf ton corps, mais ton corps c'était payant. Un trésor que tu donnais, comme on vide son porte-monnaie, dans la main d'un plus paumé. Ça va, ça vient, depuis tout ce qu'on s'est donné, de bonheur, pour se le dire on se retenait. La pudeur, mais ton corps c'était payant. Un trésor, t'aimais pas un sou vaillant. Sauf ton corps, t'es plus jolie que jamais. Sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Si tu le laissais réchapper du frigo, je saurais le rattraper tout de go, même s'il n'a plus la chaleur que j'aimais, t'es plus jolie que jamais, sans le cœur.
Et voilà. Oh ben il a fini d'une façon brutale, hein, je trouve. Bon. J'ai un petit Charles Cros, là, le coffret de Santal. Bon, certains auditeurs, auditrices connaissent hein, Charles Cros. Il s'est fait piquer ses diplômes par Edison. Il avait inventé le phono. Phonographe, vous savez. Et puis, c'est puis, il avait inventé une espèce d'appareil photo. Et comme c'était un poète, il s'en foutait. Edison est passé par là, il lui a piqué ses brevets et il les a donc utilisés pour se faire inventer des choses qui ne lui appartenaient pas. Hein. Bon, mais c'est ça, les poètes, le problème, c'est ça, vous voyez. Moi, j'ai failli me faire piquer ma femme, alors oui, un poète, en tant que poète. Alors, hein, parce qu'elle a vu un autre poète plus grand que moi, plus beau, ouais. Meilleur que moi. Hein. Il avait écrit déjà 50 livres, moi j'en avais écrit que 13. Oui. Et alors, j'ai voulu lire ce qu'il écrivait. C'était de la merde. J'ai pas compris ma femme. J'ai pas compris que c'était con, mais alors vraiment con. Hein. Par exemple, dit, je t'aime moi non plus. Mais ça veut rien dire ça. Et puis en plus, c'était emprunté à quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez à qui? Gainsbourg. Ouais. Il avait piqué ça à Gainsbourg. Je l'ai dit à ma femme. Eh bien, dans le coin, elle l'a laissé tomber, elle est revenue avec moi, figurez-vous. Et alors lui, moi, je lui ai dit, je t'aime. Je n'ai pas dit, je t'aime, moi non plus. J'ai dit, lui non plus, d'ailleurs. J'ai dit, parce qu'il ne t'aimait pas, ce n'est pas possible. Je t'aime, lui non plus, voilà, j'ai dit. Ça. C'est complètement différent, vous voyez, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Bon, allez. Allez, oui, c'était Charles Cros, là, dont je voulais parler. Hein. Alors, une attristée d'ambition. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'une attristée d'ambition hein? Eh bien, on va le savoir. Encore que rien qu'en lisant le titre, je pourrais dire ce que c'est, moi. Mais ça, certainement, ça ne va pas correspondre avec Charles Cros. Comme hier, vous avez les souplesses étranges des tigresses et des jaguars. Vos yeux dardent toujours sous leurs rombleuses franges. L'or acéré de leurs regards. Vos mains ont comme hier, sous leur teinte d'aurore, leur inexplicable vigueur. Elles trouvent encore, sur les touches sonores, des accords qui frôlent le corps. Bon, apparemment, elle fait du piano. Hein. Bon. Je vois pas pourquoi il ne le dit pas. Hein. Comme hier, vous vivez dans les fécondes fièvres et dans les rêves exaltés. Les mots étincelants s'échappent de vos lèvres, échos des intimes clartés. Trop heureuse en ce monde et bien trop partagée, idéal et charnel pouvoir, vous avez tout et vous êtes découragée, comme un ciel d'automne le soir. Je ne savais pas qu'un ciel d'automne le soir était découragé. Ouais, mais enfin, souvent, c'est parce qu'il perdait ses feuilles. Enfin, les arbres perdaient ses feuilles. Ne rêvez pas d'accroître et de parfaire encore les dons que vous avez fait le ciel. Ne changez pas l'attrait suprême qui s'ignore pour un moindre artificiel. Il faut que la beauté vivante, écrite ou peinte, n'ait rien des soucis du chercheur. Et si la rose avait à composer sa teinte, elle y perdrait charme et fraîcheur. Dites-vous, pour chasser la tristesse rebelle, en ornant des fleurs vos cheveux, que sans peine pour vous, ceux qui vous trouvent belle sauront le dire à nos neveux. Pourquoi aux neveux? Pourquoi pas aux nièces? Hein? Et pourquoi pas à la belle-mère? Allons, les belles-mères ont tant besoin de savoir des choses comme ça que les neveux. Allons, hein? Bon, ben là, c'est parce que je pense qu'il n'a pas fini sa phrase. Alors, si j'essayais d'affinir, moi, hein? Alors je dirais, que sous peine pour vous, ceux qui la trouvent belle sauront le dire à tout le monde, au monde entier, par exemple. Comme ça, il y a tout le monde, il y a les neveux, les grands-mères, les grands-pères, les bonnes sœurs, les curés, tout le monde. Hein? Même les sénateurs, figurez-vous. Hein? Voilà. Bon, c'est pas mal. Hein? Alors, on va être un petit peu plus sérieux, je crois, avec Federico Garcia Lorca. Hein? Alors c'est bien parce que si j'avais à côté de moi un animateur qui parlerait l'espagnol, on a la traduction en espagnol et en français. Alors, non, je ne pourrais pas vous lire en espagnol. Il faudrait que je demande à mon petit-fils s'il apprend l'espagnol au collège. Je ne suis pas sûr qu'il puisse réciter ça maintenant. Alors, c'est l'arrestation d'Antonio El Camborio sur le chemin de Séville. Antonio Torres Heredia, fils et petit-fils de Camborios, avec une badine d'osier, va à Séville voir les taureaux, brun de verte lune. Il marche lent et fier. Ses boucles bleutées brillent entre ses yeux. À mi-chemin, il cueillit des citrons ronds et s'en fut les jeter à l'eau jusqu'à les rendre toutes d'or. Et au beau milieu du chemin, sous le feuillage d'un orme, la garde civile itinérante le saisit de lui par les coudes. Le jour s'en va lentement, le soir pendu à l'épaule, donnant une passe de cap sur la mer et les ruisseaux, les olives attendent la nuit du Capricorne. Attendez, c'est pas fini. Et une courte brise équestre saute des montagnes de plomb. Antonio Torres Heredia, fils et petit-fils de Camborios, marche sans sa badine d'osier, entre les cinq tricornes. Voilà, parce qu'ils avaient la police là-bas, ils ont des tricornes. Ouais. Et des fois, ils en ont un petit peu plus que ça si leur femme, elle fait des petits écarts de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein? Bon. Antonio, qui es-tu? Si tu t'appelais Camborio, tu aurais fait une fontaine de 100 à 5 jets. Tu n'es le fils de personne, ni un Camborio légitime. Ils se sont éteints, les gitans, qui allaient seuls par la montagne, et les vieux couteaux frémissent sous la poussière. À 9h du soir, on le conduit au cachot, tandis que les gardes civils boivent tout de la limonade. Oh, m'étonnerait que les gardes civils boivent de la limonade. Hein. Bon, enfin bon, il n'a pas voulu dire que c'était des poivreaux, c'est pour ça. Bon. Et à 9h du soir, on l'enferme dans le cachot, tandis que le ciel brille comme la croupe d'un poulain. Oh, oh, oh. C'est beau. Et voilà, ben c'est tout. Ouais. Alors après, il y a la mort d'Antonio del Camborio. Hein. Bon, mais ça, je ne vais pas vous lire, parce qu'il a été long à agoniser, hein, donc il y en a je ne sais pas combien de pages. Hein. Bon. Hein. Il y a la mort d'amour aussi, mais bon, c'est à croire que Federico Garcia, il ne parle que de la mort. Hein. Bon. C'est pas très gay, hein. C'est pas très gay à la veille de Pâques, quand même. Hein. Bon. Alors vous allez me dire aujourd'hui, on est le vendredi saint, il paraît que c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est mort. Le Dieu est mort, oui, aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais voulu dire à quelle heure. C'était important pourtant de dire à quelle heure, parce qu'on aurait fait une messe à l'heure où il est mort. Mais non, ils ne veulent pas le dire. À l'époque, pourtant, les Romains, ils avaient inventé l'heure, que je sache. Hein, et c'est quand même les Romains qui l'ont tué. Hein, bah oui, je ne comprends pas. Ça, j'ai du mal à comprendre tout ça, moi. Bon. Enfin bon, moi, je suis athée. Hein. Je suis tellement athée que je crois en tout, d'ailleurs. Allez, les licons de la pointe.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompe. Pour lui, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Laissons donc cette femme tronc qui a pourtant un beau tuba. Et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois. Pas du au bois, de l'hélicon. Pou, 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 pou. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coups de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Pou, 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 pou. Con.
Voilà. Alors bon, c'est un peu, à la fin, c'est un peu con-con, hein. Con-con, Ellie, con-con, hein. Bon. Alors, un certain Georges Fourest, qui a écrit des beaux poèmes, d'ailleurs, et il a écrit Le banquet de Paul Verlaine, figurez-vous. Alors, c'est à croire qu'il était au banquet. Mais c'était le banquet de quoi? De sa mort? De son mariage? Hein? De son deuxième mariage, de son troisième mariage. Alors, or donc, les amis de Verlaine, pour commémorer... Ah, ben voilà, c'est son trépas. Pour commémorer son trépas, se sont offerts, et l'on l'enlaine, dimanche, un bon petit repas. D'abord, au maître qui en environne leur amour d'un geste furtif, ils jetèrent une couronne. Ça leur servit d'apéritif. Alors, avant de se mettre à table, rien ne vaut un tour de jardin. Sans nul incident bien notable, on bouffa hors d'œuvre, boudin, gigot, tripes, saucisses, nouilles et chou-fleur à la Père Ubu. Tête de veau plus forte en douille, mais quand un chacun fut bien lu, bu. Sonna l'heure de la palabre. Alors, à mes petits chéris, par l'époux de Cindre et Benoît Labre, ce furent de beaux... Alors, Ourvari, avec un H au début. Je suis désolé, mais si vous voulez bien prendre un dictionnaire pour me dire ce que ça veut dire, hein, ou je regarderai quand j'entrerai. D'abord, un monsieur Alexandre, qu'on patronyme Nathanson, sur un mode rêveur et tendre, entonna la bonne chanson de Monaco. J'ai la galette et Verlaine avait de talent, modulait-il, ça se complète, disons mieux, c'est équivalent. Vacillant un peu, sur son socle, monsieur Edmond Lepelletier, dans l'œil, ajuste son monocle et regarde d'un air altier. Un monsieur au nom exotique brandit sa carte. On n'en veut point. Pour le coup, c'est épileptique, on hurle, on se montre le poing. Va donc, mufle, va donc, tapette, Ça existait déjà avant le mot tapette, vous vous rendez compte? Eh ben dis donc, tant de marlou, tant de d'avachi, ta gueule et mon cul quand je pète. Oh là là, c'est incroyable ce qu'il a écrit là. Hein. Les dames perdent leur chichi. Et en une débandade folle, plat, couteau, saladier, couvert, assiette, allez donc, tout vole. Le bon Verlaine est toujours mort. C'est normal. D'ailleurs, s'il aurait pris un coup de couteau, un truc comme ça, il serait déjà deux fois mort. Mais le plus chauve des esthètes dressait son crâne monarchal, qui veut phalange fait la bête, proclamait feu Blaise Pascal. Que chantait-il ce Jean Royer? En vérité, je ne sais pas, car on apportait le gruyère et ce fut la fin du repas. Charmé de la petite fête, chacun l'a pensé saignant. Mais tout de même, ces poètes sont de bien gentils compagnons. Alors nous, on a des soirées de poésie, ça ne se termine pas comme ça. Hein. Ah non, vous inquiétez pas. Hein. Hein. Des fois, on pleure à la fin parce qu'on est obligé de se quitter. Alors on se pleure les bras dans les bras. Oh non, reste encore un peu. Allez, on va rester encore un petit peu. Non, t'en vas pas maintenant, je t'en supplie. Mais raconte-nous un peu un de tes poèmes. Hein. Ah, t'en as plus? Bon, allez, tire-toi. Voilà, comment ça? Oui, c'est bien comme ça, vous voyez? Tandis que là, il se tape dessus, là, il s'envoie les assiettes au... Oh là là, c'est quand même pas... Alors, je sais même plus quoi choisir, tiens. Ah si, tiens, on va faire de la gastronomie, tiens. Oh là là, j'adore faire de la poésie gastronome. Gertrude Poivrotte, figurez-vous. Gertrude Poivrotte, il n'y a même pas de date, hein, c'est pour vous dire. Elle s'essuyait quotidiennement les yeux avec Le Monde, à la page gastronomique, après avoir dîné afin d'y relire sa propre prose journalistique. Ce jour-là, le responsable de cette rubrique avait été envoyé par sa rédaction pour tester dans le quartier médiéval de Périgueux un restaurant qui se disait le meilleur dans sa spécialité. Le menu ressemblait à la carte d'un globe incompréhensible et recomposé comme un puzzle où certains éléments auraient été perdus ou mis en dépit du bon sens. Le journaliste commença par noter sur une grille préétablie ce désordre qui valait 3 points et qui le conditionnait dès le début. Le choix fut si fastidieux que pour faire une idée générale que notre homme choisit à la carte afin d'habiller sa critique avec objectivité. Très vite, il fut devant le premier plat. La crevette avortée côtoyait la pizza à 3 étages et ce monde burger à la sauce standardisée. Gertrude Poivrotte était cette nouvelle enseigne qui ressemblait comme à une mode pour la déguisette, vous savez, la jet set, je ne sais pas comment on dit, hein, la jet set, d'une ville moyenne qui se targuait d'utiliser l'échelle humaine pour se hisser vers un horizon gastronomique. Ma chatte, Kaline, négligeait le foie, même quand elle revendiquait d'être gras, et à l'origine de volailles élevées en plein air. Pourtant, n'ayant pas remarqué sa vocation de goûteuse professionnelle, je n'en avais pas tenu compte, malgré son goût prononcé pour les mèfs. Pourtant, il m'arrivait assez souvent d'aller vers certains plaisirs périgourdins. J'avais ce fait pour une cuisson bien spéciale d'un foie gras qui acceptait de se laisser aller vers la perfection. Du coup, ce restaurant fut fourrayé de ma mémoire pour ne garder que celui d'un meilleur foie gras poêlé de chez Hercule Poirot, mais il y a bien longtemps. Alors, pour vous dire, le restaurant Hercule Poirot existait bien. Et c'était certainement sur la place de Périgueux le meilleur foie gras poêlé qui existait. Hein. Et Hercule Poirot, bah, il est parti, il a arrêté. Il est parti en bord de mer vendre des huîtres. Bon, c'est pas pareil. Hein. Mais en plus, c'était sympa. Hein. Je me souviens plus de son nom, parce que ça, c'était le nom du restaurant, bien sûr. Hein. Et je me souviens plus, c'est pas grave. Mais j'ai son visage devant moi encore. Il avait des petits airs de Coluche, en fait. Hein. S'il m'écoute, ce qui m'étonnerait fort, mais bon, on ne sait jamais. Et je suis sûr qu'il me fait une bise. Il embrasse le haut-parleur de la radio pour me faire une bise, à tous les coups. Ah oui, j'ai entendu, tiens. Ah ouais, j'ai entendu, tiens. Ah, c'est toi, Hercule. Ouais. T'as toujours ton poireau. Bon, allez, arrête, Hercule. Hercule Poireau, t'étais bon, hein. Comme cuistot, t'étais bon. Hein. Ah ouais, ça, je reconnais. Comme quoi, la gastronomie et la poésie, ça va bien ensemble, je trouve. Alors, il faut prendre la gastronomie avant, la poésie, c'est après. Hein. Parce que comme ça, vous faites une belle poésie, vous avez le ventre bien plein, hein, vous rôtez un petit peu. Bon, par contre, faut pas vous lâcher de derrière, hein, ça se fait pas en poésie. Hein. Oh non. Rôter, oui. Parce qu'il y a de rôter aussi. Hein. Bon, voilà. Donc c'est un beau. Le mot rôter, c'est beau, c'est joli hein, comme nom. Ouais. Eh oui. Bon, alors. Je suis désolé, mais il n'est pas encore l'heure. Hein. Donc, vous allez encore m'entendre, vous allez encore me subir. Hein. Allez, tiens, Haïti, récit au retour d'un voyage fabuleux. Et je vais vous lire un poème qui n'est pas de moi, qui est de Jean-Claude Lemoine, qui a été là-bas en Haïti travailler. Hein. Et ça s'appelle « Au marron ». Au marron. Déporté, arraché à la terre maternelle, arraché au village protecteur, déporté, capturé, enchaîné, frappé, vendu, au poids du muscle et de stature, à la force du souffle, au brillant de l'œil, vendu. De main chrétienne en main chrétienne, attelé, obligé, humilié, frappé, croisé, enterré, n'ayant d'autre droit que celui d'obéir, se soumettre sans gémir, déporté, vendu, humilié. Ils ont osé. Les petits, les parias, les nègres, ils ont bousculé les maîtres, étripé, chassé les maîtres, les nègres. Soulevés, enivrés d'espoir, ils ont inversé le pouvoir, les nègres. Dans leur élan libérateur, ils ont dressé sur les hauteurs de hautes murailles, pleines de mitraille. Orgueilleux chants patriotiques, rudes mouvements pathétiques, les nègres, en effrayant les évasions, ont inventé la dissuasion, les nègres, libres. Eh oui, ivres, un moment, ont planté dans le ciel la citadelle. Ce fut écrit à Cap-Haïtien en 1979, Jean-Claude Lemoine. Alors, en fait, c'est quand ils se sont révoltés, les Haïtiens, ils ont viré Napoléon. Seulement, ils ont payé une somme énorme et ils sont toujours en train de réclamer cette somme au gouvernement français, figurez-vous. Mais ça, c'est complètement dingue. Et ce pays est devenu... ce sont des hordes de bandits qui font la loi dans toute l'île maintenant. Le gouvernement est impuissant. Il n'a pas assez. Alors, on va me dire, il pourrait faire appel à l'ONU. Mais l'ONU ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas le droit de tuer. Eux. Ils sont là pour protéger des innocents, l'ONU. Hein, pour empêcher, justement, se mettre entre les belligérants. Hein, mais pas pour tuer. Donc, même l'ONU ne pourrait pas faire grand-chose. Hein, voilà. Bon, là-dessus... une minute. Oh, je vais rester. Edwige, je t'ai pas entendu aujourd'hui, là. On s'en fait d'habitude, tu m'envoies un petit bonjour de Bora Bora. Hein. Figure-toi que j'ai vu une photo de Bora Bora, une photo de prise d'avion, mais c'est dans un paradis que tu vis. C'est incroyable. T'as vu le lagon ? Au milieu, il est beau. Ah. Oh, que c'est joli. Je sens que je vais y aller. Hein. Comme ça, j'aurai deux beautés. Bora Bora et toi. Hein. Parce que je sais que t'es encore belle, hein. Tu peux rester que belle là-bas, hein. C'est normal. Bora Bora, même les petites vieilles sont belles, alors tu vois. Un peu. Et les petits vieux, par contre, je sais pas, ils sont pas très beaux. Bon. Mais moi, comme je suis beau, et puis je suis pas de Bora Bora, moi, tu vas revoir un beau petit jeune homme, là, tout frais, qui va arriver, tu vas voir. Et puis je vais faire en sorte, je vais enlever ma barbe, je vais me couper les cheveux, tu vois. Je vais devenir un berbe, hein, tu vois, un berbe. Alors tu vas pas me reconnaître, mais t'inquiète pas, moi je vais te reconnaître quand même. Bon. Mais non, t'inquiète pas. Bon, tu restes comme tu es, aussi belle, et puis comme ça, à l'aéroport, je te reconnaîtrai. Hein. Allez, je t'embrasse. Et tu donnes bien le bonjour aux Tahitiens, et aux Boraennes et aux Borains. Comment on dit ? Bora Bora ? Ha ha ! Tora Tora ! Bon, allez, je t'aime. Et puis je vous aime tous, hein, mes chers auditrices et auditeurs, parce que c'est grâce à vous si j'existe. Hein. Mais mêliez-vous quand même de ce qui vous regarde. Hein. Allez, je vous aime.